بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لوون جاء الله en cette nuit du 11 Ramadan 1441 qui correspond au 3 mai 2020, nous nous retrouvons sur les ondes de Radio Taqwa pour la deuxième partie concernant les meilleurs jeunes et autres dans Umdat al-Ahkam, que nous prenons avec l'explication de l'érudit Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi, intitulé Tanbih al-Afham. Fa al-hadith al-rabi' وهو الحديث 195 في العمدة، وهو الحديث الرابع في الباب، عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم، وزاد مسلم ورب الكعبة. دونك avec le quatrième hadith dans le chapitre « Les meilleurs des jeunes et autres » et qui est le 195e hadith dans « Umdat al-Ahkam », Muhammad ibn Abbad ibn Ja'far a dit « J'ai interrogé Jabir ibn Abdillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, j'ai interrogé Jabir ibn Abdillah, est-ce que le prophète a interdit le jeûne du vendredi? Le prophète a-t-il interdit le jeûne du vendredi? Il me répondit oui, et dans la version de Muslim, par le Seigneur de la Kaaba. Le hadith, il est rapporté par l'imam Bukhari et par l'imam Muslim aussi. Et s'il lui a fait ce serment, c'est parce qu'ils étaient dans le tawaf autour de la Kaaba. Al-Rawi, Muhammad ibn Abbad ibn Ja'far al-Makhzoumi al-Makki, tabi'i, thiqa, min al-tabaqati al-wusta, min al-tabi'in. Le transmetteur du hadith, c'est Muhammad ibn Abbad ibn Ja'far al-Makhzoumi, le Mekwa. C'est un tabi'i, un des successeurs du noble compagnon d'Allah Alim, de la génération du milieu parmi tabi'in. Il est digne de confiance. موضوع الحديث حكم صوم الجمعة. Le sujet du hadith, le statut du jeûne du vendredi. شرح الكلمات أنها الهمزة للاستفهام والنهي طلب الترك ممن دون الطلب عن صوم يوم الجمعة أي عن إفراده بالصوم كما في رواية للبخاري. نعم حرف جواب لتقرير المسؤول عنه، ورب الكعبة خالقها ومعظمها، والواو للقسم، والغرض منه تأكيد الحكم لاستغرابه ومناسبة ذكر الكعبة أنه سأل جابرا وهو يطوف بها. الشرح الإجمالي يخبر محمد بن عباد بن جعفر أحد التابعين أنه سأل جابر بن عبد الله هل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إفراد يوم الجمعة؟ فأجاب جابر بالإيجاب، وأكد ذلك بالقسم عليه، حيث إنه قد يستغرب النهي عنه لكون يوم الجمعة أفضل الأيام، فكيف ينهى عن صومه؟ إلا أنه عند التأمل تتبين الحكمة فيه، فإن يوم الجمعة عيد الأسبوع، فإن يوم الجمعة عيد الأسبوع فأعطي شيئا من أحكام العيد، لكن لما كان عيدا خاصا لم تثبت له جميع أحكام العيد والله أعلم. Et donc le sens général de ce hadith, Muhammad ibn Abbad ibn Ja'far, l'un des tabi'in, rapporte qu'il a posé la question à Jabir ibn Abdillah. Est-ce que le prophète a interdit le jeûne, de jeûner le vendredi seul? De jeûner le vendredi seul. Et Jabir lui a répondu que oui, et il l'a confirmé par le serment. Il l'a confirmé par le fait de faire un serment, car on peut trouver étrange cette interdiction. Car le vendredi, c'est le meilleur des jours de la semaine. Comment son jeûne peut être interdit? Mais quand on regarde bien, dit Cheikh Rahmatullah Alayh, on comprend la sagesse et le but de l'interdiction. On comprend la sagesse et le but de l'interdiction du jeûne du vendredi. Car le vendredi, c'est le jour de fête hebdomadaire. C'est pour ça qu'il lui a été donné certains statuts du jour de fête. Et comme c'est un jour de fête spécifique, il n'a pas eu tous les statuts de la fête, et seul Allah sait. Et les jours de fête, il est interdit de le jeûner. D'où la parole du Cheikh Rahmatullah Alayh. فوائد الحديث أولا النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم والنهي للكراهة عند جمهور العلماء. Les leçons du hadith, la première leçon, l'interdiction de jeûner le jour du vendredi, l'interdiction de jeûner le jour du vendredi seul, et l'interdiction pour une grande partie des savants n'est pas formelle. Mais il est du domaine de ce qui est détestable. Comme quoi il est détestable de jeûner le jour du vendredi. Et que ici, pour une grande partie pour Jumhur, l'ulama, l'interdiction n'est pas formelle, il est du domaine du détestable. Taniyan, jawaz al-halaf al-futi al-maslahat walaw lam yustahlaf. La deuxième leçon à prendre ici, il est permis de faire le serment pour le fatwa, pour l'intérêt, même si cela n'a pas été demandé. Thalithan, hirs al-salaf 'ala al-'ilm ta'alluman wa ta'liman. Troisième leçon, le désir ardent des salafs à apprendre et à enseigner. Yaqulu rahimahullah tanbih. قول المؤلف رحمه الله وزاد مسلم لم أرها في مسلم وإنما هي في النساء أما رواية مسلم فهي بلفظ ورب هذا البيت وهي أدل على قربه من الكعبة من اللفظ الذي ذكره المؤلف. لا الشيخ في un rappel, il dit l'auteur a dit مسلم a rajouté ورب الكعبة par le seigneur de الكعبة. Il dit, je ne l'ai pas trouvé chez l'imam Muslim, mais il est chez Nasa'i. Quant à l'expression chez l'imam Muslim, wa rabbi hadha al-bayt. L'expression chez l'imam Muslim, wa rabbi hadha al-bayt, par le seigneur de cette demeure. Et cette expression chez l'imam Muslim prouve plus que Jabir était proche de la Kaaba que l'expression qu'a cité l'auteur, le seigneur de la Kaaba. Regardez cette minutie de transmission, disons, de science. Regardez combien de fois Cheikh Rahmatullah Alayh nous a fait ce genre de rappel. Ici, il nous rappelle que l'expression qu'a cité l'auteur de Umdat al-Ahkam n'est pas dans Sahih Muslim, mais il est plutôt chez Nasa'i, et que l'expression chez l'imam muslim, wa rabbi hadha al-bayt, et par le seigneur de cette demeure, et non par le seigneur de la Kaaba. Et l'expression, comme il a dit Cheikh Rahmatullah Alayh, par le seigneur de cette demeure, montre plus que Jabir était proche de la Kaaba que l'expression qu'a cité l'auteur de Umdat al-Ahkam qui a dit par le souverain ou par le seigneur de la Kaaba. Rahimallahu a'immat al-Islam. Et on passe au cinquième hadith. الحديث الخامس في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. Le cinquième hadith dans le chapitre et le 196e dans le livre de Umdat al-Ahkam, Abu Huraira a dit, radiyallahu anhu, j'ai entendu le messager d'Allah dire que l'un d'entre vous ne jeûne pas le vendredi, à moins qu'il ne jeûne un jour avant ou un jour après. موضوع الحديث حكم إفراد يوم الجمعة بالصوم. Le sujet du hadith, le statut de jeûner le vendredi seul. شرح الكلمات لا يصومن لا ناهية والفعل مبني على الفتح في محل جزم لاتصاله بنون التوكيد يوما قبله أي مواليا له يوما بعده أي مواليا له. والشرح الإجمالي يخبر أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده لأنه بذلك يزول احتمال تخصيص اليوم ذاته بالصوم. Et le sens général du hadith, Abu Huraira a annoncé qu'il a entendu le prophète interdire le jeûne du vendredi. Il a entendu le prophète interdire le fait de jeûner le vendredi seul, sauf s'il est accompagné d'un jour avant ou un jour après. Comme ça, il sort du fait de spécifier le vendredi par un jeûne. فوائد الحديث النهي عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده مواليا له. Et donc les leçons du hadith. La première leçon, l'interdiction de jeûner le jour du vendredi seul, sauf si on jeûne un jour avant ou un jour après. Donc il ne faut pas spécifier le vendredi avec un jeûne et le jeûner seul. On jeûne le jeudi. On jeûne avec le samedi. ثانيا حكمة التشريع الإسلامي حيث فرق بين صوم يومي العيدين ويوم الجمعة. La deuxième leçon à retenir, la perfection de la législation islamique, il fait la différence entre le jeûne des deux fêtes et le jeûne du jour du vendredi. ويقول رحمه الله تتم يجوز إفراد يوم الجمعة بالصوم إذا صادف عادة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صومه في صوم يصومه أحدكم رواه مسلم. إيه Cheikh, il fait un rappel ici. Il dit, il est permis de jeûner le jour du vendredi s'il correspond à un jour qu'on a l'habitude de jeûner. Ah. Et ceci, c'est quoi l'argument? Il ramène un hadith qui est authentique chez l'imam muslim. Abu Huraira a dit que le prophète alayhi salatu wasalam a dit ne spécifiez pas la nuit du vendredi avec des prières nocturnes et ne spécifiez pas le jour du vendredi par un jeûne, sauf s'il correspond à un jour que vous avez l'habitude de jeûner. Donc ce qui est interdit, hein, il est interdit de jeûner le vendredi seul. Mais ici, l'exception est faite à des jeûnes que la personne jeûne lui-même. Comme exemple, par exemple, le 13e du mois lunaire, le 14e et le 15e, si la personne a l'habitude et jeûne constamment le 13 et le 14 et le 15 du mois lunaire, il n'y a pas de mal à cela, selon le hadith qu'a rapporté Cheikh. Ou si la personne jeûne le jeûne de Daoud, un jour oui, un jour non. Il est obligé qu'un jour il tombera sur le vendredi. Et ça, si la personne le fait constamment. Donc quand la personne jeûne constamment, hein, il n'y a pas de mal. Mais spécifier, dire aujourd'hui, aujourd'hui c'est vendredi, c'est un noble jour, c'est le jour de fête du musulman, je lui réserve mon jeûne, je le jeûne, et après la nuit du vendredi, je fais qiyam layl parce que c'est une nuit qui a des mérites, etc. Ceci est interdit. ونأتي إلى الحديث السادس عن أبي عبيد مولى ابن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر الذي تأكلون فيه نسككم. Et on passe au sixième hadith dans le chapitre qui est le 197e hadith dans Umdat al-Ahkam. Abu Ubaid, le domestique d'Ibn Azhar, de son nom Sa'd ibn Ubaid, a dit « J'ai assisté à la prière du Eid en compagnie de Omar ibn al-Khattab, qui a dit lors de son serment « Le messager d'Allah nous a interdit de jeûner ces deux jours, le jour de la rupture du jeûne qui marque la fin du mois de Ramadan, c'est-à-dire le premier Shawwal, et le jour où vous mangez de votre sacrifice, c'est-à-dire la fête du sacrifice, Eid al-Adha. » Rawi Abu Ubaid. هو أبو عبيد سعد بن عبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر تابعي ثقة مات في المدينة سنة 98 وأبو عبد الرحمن بن أزهر هو ابن أخي عبد الرحمن ابن أخي عبد الرحمن بن عوف له صحبة وذكر البخاري في تاريخه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحنين وسعى بين يديه وقد بلغ يومئذ الحلم. Le transmetteur du hadith, Abu Ubaid, le domestique de Abdurrahman ibn Azhar, c'est un tabi'i digne de confiance. Il est mort à Médine en l'an 98 de l'Hégire. Et Abdurrahman ibn Azhar, c'est le fils du frère de Abdurrahman ibn Auf. Il a accompagné le prophète alayhi salatu wassalam. Le Bukhari rapporte dans son livre d'histoire que Ubayd ibn Azhar a vu le prophète alayhi salatu wassalam le jour de Hunay. Il a couru devant lui entre Safa et le Marwa. Et il était pubère à ce moment-là. موضوع الحديث حكم صوم يومي العيد. Le statut du hadith, le sujet du hadith, le statut du jeûne dit de fête. شرح الكلمات شهدت حضرت العيد أي صلاة العيد وهي صلاة عيد الأضحى كما في صحيح البخاري مع عمر بن الخطاب أي مؤتما به فقال أي في خطبته بعد الصلاة هذان يومان يعني يومي عيد الأضحى والفطر والإشارة إليهما جميعا من تغليب الحاضر يوم فطركم أي فطركم من رمضان وهو أول يوم من شوال واليوم الآخر أي اليوم الثاني وهو العاشر من ذي الحجة نسككم ذبيحتكم التي تتعبدون لله تعالى بها وهي الأضحية والهدي. الشرح الإجمالي يخبر سعد بن عبيد وهو من التابعين أنه صلى مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاة العيد وكان ذلك عيد الأضحى فخطب الناس وبين في خطبته ما يناسب المقام ومنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، وأشار إلى أن العلة في الفطر في عيد الفطر أنه اليوم الذي تنتهي فيه فريضة الصيام، فتتميز به أيام الفطر من أيام الصيام. وأما علة الفطر في يوم الأضحى فإنه اليوم الذي يضحي فيه الناس ويهدون ويظهرون شعائر الله تعالى بالأكل من ذلك. إذنك le sens général du hadith du Cheikh rahimahullah Saad ibn Ubaid, qui est un tabi'i, annonce qu'il a prié avec le prince des croyants Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu la prière de l'Eid, et c'était la prière du Eid du sacrifice, Eid al-Adha. Et Omar a fait le sermon, et dans son sermon il a cité les choses qui convient à l'occasion, parmi lesquelles l'interdiction de jeûner le jour des deux fêtes, la fête du sacrifice et la fête qui clôture le mois de Ramadan, Eid al-Fitr. Il a attiré l'attention sur la sagesse de cette interdiction, car la fête qui clôture le mois de Ramadan marque la distinction entre les jours du jeûne et celles qu'on ne jeûne pas. Quant à la sagesse de ne pas jeûner la fête du sacrifice, c'est le jour où les gens sacrifient pour Allah et montrent les emblèmes de la religion d'Allah par le fait de manger de leurs sacrifices. Les leçons à retenir de ce hadith, أولا فوائد الحديث الفائدة الأولى النهي عن صوم يومي عيد الفطر والأضحى وهو للتحريم. Et la première leçon, l'interdiction de jeûner les deux fêtes, et cela est illicite. Le jour du sacrifice et le jour de la clôture du mois de Ramadan, le premier jour du Shawwal, il est illicite de le jeûner. Taniyan, anna hikmata an-nahy 'an dhalik al-akl min an-nusuk fi 'eid al-Adha wa tamyiz as-sawm min al-fitr fi 'eid al-fitr. La deuxième leçon, le but et la sagesse de l'interdiction de jeûner les jours des fêtes, c'est de manger de son sacrifice le jour de la fête du sacrifice. Et le jour de Eid al-Fitr, c'est distinguer entre les jours, entre les jeûnes obligatoires, hein, et la rupture des jeûnes avec l'apparition du croissant de Shawwal. C'est-à-dire distinguer entre eux le jeûne du mois de Ramadan et l'entrée du mois de Shawwal par le premier jour du mois de Shawwal en ne jeûnant pas. Thalithan, anna al-awla fi al-khutba an takuna munasibatan lil waqt wal hal. La troisième leçon à retenir, la khutba doit correspondre à la situation. Rabi'an, mashru'iyat al-akl min al-nusuk. La quatrième leçon à retenir, il est légiféré de manger du sacrifice. ونأتي إلى الحادث السابع في الباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في التوب الواحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر أخرجه مسلم بتمامه وأخرج البخاري الصوم فقط. Le septième hadith du chapitre, le 198e hadith du livre d'Umdat Ahkam, Abu Sa'id al-Khudri a dit que le messager d'Allah interdit le jeûne de deux jours. Le jour de la fête du sacrifice et le jour du fêtre, le jour de la clôture, le premier jour du Shawwal, le jour de la clôture qui clôture le mois de Ramadan. Et il a interdit aussi de s'envelopper dans un seul tissu, ne laissant pas de sortir pour les bras et de s'asseoir en ramenant ses cuisses vers sa poitrine et en étant habillé d'un seul vêtement, comme font les Yamanites quand ils s'assoient. L'ihtiba hada, ils mettent une corde qui est nouée ou un morceau de tissu en cercle ils le mettent autour de leurs genoux et derrière leur dos. Ainsi, ils ramènent leur cuisse vers leur poitrine. C'est une position reposante. Mais quand on est habillé d'un seul vêtement, il est interdit de faire l'ihtiba avec, de s'asseoir dans cette position. Et donc, il a interdit d'accomplir aussi des prières surrogatoires après la prière du Sobh et du Asr. Muslim l'a rapporté dans son intégralité et le Bukhari n'a mentionné que le jeûne. Et si Cheikh, il fait un rappel, il dit, on marche de la page, en fait, c'est l'inverse. C'est le Bukhari qui a ramené le hadith dans son intégrité et non Muslim qui n'a mentionné que la partie du jeûne dans le hadith, dans le chapitre de son authentique chapitre, l'interdiction de jeûne, de jeûner le jour du Fitr et de l'Adha. Et concernant, il a rapporté l'autre partie concernant la prière seulement, dans le chapitre les heures où la prière est interdite. Et donc là encore, Cheikh, il attire notre attention que le hadith, dans son intégralité, est rapporté par l'imam Bukhari. Et que l'imam Muslim n'a rapporté dans son authentique que dans l'interdiction du jeûne rajeuné, la partie qui correspond à l'interdiction du jeûne de la fête qui clôture le mois de Ramadan et la fête du sacrifice. Et dans le chapitre où il a relater les prières, les heures de prière, les heures où il est interdit de prier, il a rapporté donc les prières interdites, les moments où les prières sont interdites, qui sont après la prière obligatoire du Sobh et après la prière obligatoire du Asr. موضوع الحديث متعدد والمناسب منه حكم صوم العيدين. Donc le sujet des hadiths, il y a différents points, mais ce qui est l'argument pour ce chapitre, c'est le statut du jeûne des deux fêtes. Ah, je répète la lecture du hadith. Abu Sa'id al-Khudri a dit que le messager d'Allah a interdit le jeûne de deux jours, le jour du sacrifice et le jour du fêtre, le premier jour du mois de Shawwal, qui est le jour de fête qui clôture le mois de Ramadan. Ça, c'est l'argument pour le chapitre. Et le prophète dans le hadith interdit aussi de s'envelopper dans un seul vêtement, ne laissant pas de sortie pour les bras, et de s'asseoir en ramenant ses cuisses sur sa poitrine, en étant habillé d'un seul vêtement. Et il a interdit d'accomplir des prières surrogatoires après la prière du Sobh et celle du Asr. Sharh al-Kalimat, qala rahimahullah al-fitr wal-nahab, ay yawmay al-fitr wal-nahab. الصماء أي لبسة الصماء وهي أن يجعل توبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه توب يحتبي يجلس على إليتيه ناصبا فخذيه وساقيه ويشدهما إلى ظهره بسير ونحو ليعتمد عليه في التوب الواحد أي الذي ليس عليه غيره عن الصلاة أي صلاة التطوع بعد الصبح والعصر أي بعد صلاتهما فقط بمعنى حسب مبني فقط اسم بمعنى حسب مبني على السكون في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف والفاء زائدة لازمة وقيل لتحسين اللفظ فليست لازمة وقيل عاطفة الشرح الإجمالي يقول الشيخ رحمه الله يخبر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصوم في يومين وعن لبستين وعن الصلاة في وقتين فأما الصوم المنهي عنه فصوم يومي عيد الفطر والأضحى وسبق بيان الحكمة في ذلك وأما اللبستان فهما اشتمال الصماء والاحتباء بالتوب الواحد وقد قيد قيد في رواية في البخاري إذا لم يكن على فرجه منه شيء بينه وبين السماء، لأن هاتين اللبستين يعرضانه لبدو عورته. وأما الوقتان فهما بعد صلاة الصبح وصلاة العصر لسد الذريعة عن التشبه بالكفار الذين يسجدون للشمس عند طلوعها. إذ رحمه الله للسونش جنرال دو حديث أبو سعيد الخدري annonce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de jeûner de jour. Et il a interdit deux façons de s'habiller, et il a interdit de prier à deux moments de la journée. Les jours interdits, c'est le jour de la fête que clôture le mois de Ramadan et le jour du sacrifice. Et le but de cela a été clarifié auparavant. Quant aux deux façons de s'habiller, c'est de s'envelopper dans un vêtement ne laissant pas de sortie pour les bras. Et l'interdiction de s'asseoir en ramenant ses cuisses vers sa poitrine en étant habillé d'un seul vêtement, de crainte de laisser apparaître ses parties intimes. Et cela a été conditionné chez le Bukhari par s'il n'a rien sur ses parties intimes qui le couvrent, car cette façon de s'habiller l'expose au fait que ses parties intimes soient découvertes. Quant aux deux moments de l'interdiction de la prière, c'est après Salat Sobh et après Salat l'Asr. فوائد الحديث: الفائدة الأولى النهي عن صوم يومي عيد الفطر والأضحى وللتحريم. La première leçon, l'interdiction formelle de jeûner les deux fêtes, عيد الأضحى وعيد الفطر, ceci est illicite. ثانيا, النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء بالثوب الواحد وهو للتحريم إن بدت العورة وإلا فللكراهة. La deuxième leçon, l'interdiction de s'envelopper dans un vêtement sans sortir ses bras, et il est interdit de s'asseoir dans un seul, quand on est habillé d'un seul vêtement, ou ramenant ses cuisses vers sa poitrine quand on est habillé par un seul vêtement. Et c'est illicite, si cela fait apparaître les parties intimes, sinon c'est du domaine du détestable. La troisième leçon, النهي عن التطوع بالصلاة بعد صلاتي الفجر والعصر ما لم تكن من ذوات الأسباب كتحية المسجد ونحوها. La troisième leçon à retenir dans ce hadith, l'interdiction de faire des prières surérogatoires après l'obligation du Sobh et après celle de l'Asr, s'ils ne font pas partie des prières qui ont des causes comme tahiyyat al-masjid ou autre. Rabi'an al-hikmatu fi al-tashri'i al-islami. La quatrième leçon, la perfection de la législation islamique. Khamisan, hirsu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala al-bu'di an mushabahat al-kuffar. La cinquième leçon, le prophète tient ardemment à se démarquer et à ne pas ressembler aux kuffar, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-hadith al-tamin an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala man sama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifan. Et donc le huitième hadith, Abu Sa'id al-Khudri rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque jeûne un jour dans le sentier d'Allah, Allah éloignera son visage du feu d'une distance de 70 ans. Mawdou' al-hadith: hukm as-sawm fi sabilillah ta'ala. Le sujet du hadith: le statut du jeûne dans le sentier, dans le combat sur le sentier d'Allah. شرح الكلمات من صام من شرطية أي إنسان صام في سبيل الله أي في الجهاد في سبيله بعد الله وجهه جعل الله وجهه بعيدا ومتى بعد وجهه بعد جميع البدن لكن خصه بالذكر لشرفه 70 أي مسافة 70 خريفا أي سنة والخريف هو الفصل الثالث من فصول السنة التي هي الربيع والصيف والخريف والشتاء عبر به عن السنة من باب التعبير بالبعض عن الغير من باب التعبير بالبعض عن الكل الشرح الإجمالي يخبر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بما يدل على فضل الصوم في سبيل الله تعالى حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صام يوما واحدا في سبيل الله كان جزاؤه أن يبعد الله تعالى وجهه عن النار 70 عاما لأنه جمع بين مشقة الجهاد والمرابطة ومشقة الصيام والصوص دي حديث أبو سعيد الخدري أنونس ce qui prouve le mérite du jeûne dans le sentier d'Allah, c'est-à-dire dans le combat sur le sentier d'Allah, azzawajal, en rapportant que le prophète a.s.w. a dit « Quiconque jeûne un jour dans le sentier d'Allah, sa récompense c'est qu'Allah éloignera son visage du feu de l'enfer. » Donc, Cheikh il dit « S'il éloigne son visage du feu de l'enfer, il a cité le visage... » Le corps va être complètement éloigné du feu de l'enfer, mais il a cité le visage tout simplement parce que le visage c'est la chose la plus noble. Hein? C'est le visage c'est quelque chose de noble dans les humains. Comme il l'a expliqué dans l'explication des vocabulaires. Il dit, donc Abu Saïd al-Khudri annonce ce qui prouve le mérite du jeûne dans le combat sur le sentier d'Allah, en rapportant que le prophète a dit, quiconque jeûne un jour dans le sentier d'Allah, sa récompense, c'est qu'Allah éloigne son visage du feu de l'enfer d'une distance de 70 ans. Car, pourquoi il dit cher? Car il a réuni entre la difficulté du combat sur le sentier d'Allah et la difficulté du jeûne. يقول الشيخ حفظه الله فوائد الحديث الفائدة الأولى الصيام فوائد الصيام في حال الجهاد في سبيل الله تعالى إلا أن يضعفه عن مهمة الجهاد La première des leçons à retenir les bienfaits du jeûne durant le combat dans le sentier d'Allah sauf si ça va le faiblit dans ces cas-là il délaisse le jeûne Car le combat, pourquoi? Car le combat relève de l'intérêt général. Il doit passer avant l'intérêt personnel. L'intérêt personnel, c'est de gagner ses récompenses. Mais l'intérêt général passe dans ces cas-là parce que le combat, c'est pour la défense de la communauté ou pour faire prévaloir la parole d'Allah, etc. Donc, il est permis de jeûner durant le combat sur le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sauf si la personne va être affaibli par le jeûne, et dans ces cas-là, il ne jeûne pas. الفائدة الثانية أن تواب صوم اليوم الواحد في سبيل الله يبعد الله الصائم عن النار 70 خريفا. La deuxième leçon, c'est la récompense d'un seul jour du jeûne dans le sentier d'Allah, c'est-à-dire dans le combat, Allah éloigne par son biais du feu de l'enfer, la distance de 70 ans. Tu imagines la distance de 70 ans? Comment la personne va être loin de l'enfer? الفائدة الثالثة أن التواب كما يكون في حصول المحبوب يكون كذلك في النجاة من المكروه. Et la troisième leçon, la récompense, comme il se concrétise par le fait d'obtenir ce qu'on aime, il se concrétise aussi par le fait d'être sauvé de ce qu'on déteste. Et ici, la fin du chapitre des meilleurs jeunes et autres. Et Inch'Allah, chaque fois que le temps le permet, je prendrai une règle parmi les règles de la jurisprudence de l'érudit Cheikh Nasser Saadi rahimahullah, avec l'explication de notre noble Cheikh, Cheikh Ubaid, dans son livre Tanwir al-Mubtadi, où il a expliqué les règles de Saadi rahimahullah alayhi. Et ici, avec la première règle, où Saadi a dit, la première règle, qui est l'intention est une des conditions dans l'œuvre. Où Saadi rahimahullah a dit, An-niyatu shartu l-lisa'i lil-amal. Biha s-salahu wal-fasadu lil-amal. Notre noble Cheikh, Cheikh Ubaid, il dit, concernant ce vers de cette poésie, l'intention est une des conditions pour toutes les œuvres. La validité de l'œuvre ou sa non-validité en dépend. Notre noble Cheikh dit, l'intention est une condition pour toute œuvre, la validité de l'œuvre et sa non-validité dépend de l'intention. Il dit, Habibullah, ici il y a quelques rappels. Il dit le premier rappel, quelles sont les œuvres pour lesquelles l'intention est une condition? La réponse du Cheikh, toute œuvre avec laquelle on veut se rapprocher d'Allah, que l'œuvre soit du domaine des croyances ou des domaines des œuvres qu'on accomplit avec ses membres ou des domaines des paroles, qu'il soit une œuvre obligatoire ou surrogatoire. Ce sont là les œuvres qui ont besoin d'une intention, qu'elle soit obligatoire ou surrogatoire, au niveau des paroles, au niveau des actes, au niveau des croyances avec lesquelles on veut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, ben ils ont besoin d'intention. Et il dit rahimahullah, la preuve et la parole du prophète alayhi salatu wassalam, qui est un hadith authentique rapporté chez Imam Bukhari, dont voici le morceau qui argumente ce qu'a cité Cheikh Habibullah. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith d'Omar ibn Khattab, la validité des actes dépend des intentions qui les animent et chaque être sera rétribué selon son intention. Le hadith. Il dit, rahimahullah, il y a un point subtil déduit de ce hadith et d'autres hadiths. Et il dit, rahimahullah, ce point subtil, c'est quoi? La différence entre la coutume et l'adoration, c'est l'intention. La différence entre la coutume et l'adoration réside dans l'intention. C'est l'intention qui fait la différence. Il dit, habidallah, le deuxième rappel, l'intention est obligatoire. L'intention est obligatoire dans les adorations. Quant aux transactions, comme le fait de s'acquitter d'un crédit ou de rendre quelque chose qu'on a volé, dans cela, l'intention n'est pas une condition. Sauf si la personne veut se rapprocher d'Allah avec cet acte. Exemple, il dit, habidallah, quelqu'un a un crédit et un tiers l'a réglé à sa place pour le lien familial, par exemple, pour le lien familial qui les lie, par exemple. Il dit, l'intention n'est pas une condition dans ce cas-là, sauf si la personne qui a réglé la dette a voulu lui faire une aumône par cet acte. Là, l'intention est obligatoire. Il dit, Abdallah, le troisième rappel, est-ce que la sincérité, c'est la même chose que l'intention? Est-ce que la sincérité, c'est l'intention? Ou alors, la sincérité est une chose et l'intention en est une autre? Et il répond, Abdallah, sa réponse, la sincérité, c'est quelque chose de plus que l'intention. La sincérité est quelque chose de plus que l'intention. Il dit exemple, un individu a des invités et quand l'heure de la prière est arrivée, il les accompagne. Il a eu l'intention de la jama'a et d'aller avec eux. mais il ne l'a pas fait sincèrement pour Allah. Car la sincérité, c'est de vouloir avec l'acte la face d'Allah. Et c'est quelque chose au-dessus de l'intention. Il était avec les gens chez lui, et l'appel de la prière s'est fait, hein, et les a accompagnés pour aller à la jama'a. Mais il ne l'a pas fait d'une façon sincère. Il a eu l'intention de la jama'a, certes, mais la sincérité, c'est quelque chose au-dessus. Le quatrième rappel, l'intention a deux degrés. Il y a deux degrés dans l'intention. Le premier degré, c'est faire la distinction entre les adorations. C'est-à-dire faire la distinction entre les différentes adorations. Le deuxième degré, la distinction entre les habitudes et les adorations. Il nous donne des exemples, Habidallah. Exemple pour le premier degré. Un individu est en train de prier d'orqa'at et on voit sur lui les traces de l'eau d'eau. Donc il se peut que les d'orqa'at qu'il est en train d'accomplir soient tahiyyat al-masjid ou soit d'orqa'at de l'eau d'eau, la sunna de l'eau d'eau. Et là, qu'est-ce qui fait la différence? C'est l'intention qui fait la différence. C'est l'intention qu'il a nouée dans son cœur qui va faire la différence. Est-ce que il a noué son intention était pour tahiyyat al-masjid ou la sunna de l'eau d'eau? Un autre exemple. Un autre individu a pris la dinde. Ça se peut qu'il est en train de faire tahiyyat al-masjid. Ou ça se peut qu'il est en train de faire les deux sérogatoires après l'eau d'eau. Ou ça se peut qu'il est en train de faire le sérogatoire avant l'obligation. Et là encore, c'est l'intention qui fera la différence. L'intention qu'il a lui avec son acte. Une troisième personne a raté salat d'or jusqu'à celle de l'asr. Il prie 4 ka'at. Ce qui va délimiter, hein, ce qu'il a prié, est-ce que les 4 ka'at sont pour dohar ou pour l'asr? Ça va être l'intention. Ça va être son intention. C'est elle qui va faire la différence entre ces adorations. L'exemple pour le deuxième degré de l'intention. Il dit, on voit un être se laver le visage, puis les mains. On voit un être se laver le visage, puis les mains, coude compris, puis il essuie sa tête et termine le lavage des pieds. Il termine par le lavage des pieds. Il se peut que cet individu s'est lavé pour se rafraîchir. Il se peut qu'il l'ait fait pour l'eau d'eau. Ce qui va faire la différence, c'est l'intention. Se laver pour se rafraîchir, c'est une habitude. Se laver pour le dos, c'est l'adoration. Et donc, qu'est-ce qui fait la différence entre l'habitude et l'adoration? C'est l'intention qui est dans le cœur de la personne. Le cinquième rappel des cheikhs, les œuvres selon la validité ou la non-validité sont divisées en 4 catégories. La première catégorie, l'acte accompli dont la sincérité est conforme à la sunna. L'acte accompli dont la sincérité est conforme à la sunna. La deuxième catégorie d'actes, l'acte accompli dont la sincérité, mais il n'est pas conforme à la sunna. L'acte accompli dont la sincérité, mais il n'est pas conforme à la sunna. La troisième catégorie d'actes, l'acte accompli conformément à la sunna, mais il n'y a pas la sincérité dedans. Sans la sincérité. L'acte accompli conformément à la sunna, mais sans la sincérité. Le quatrième acte, l'acte qui n'est ni dans la sincérité, ni conforme avec la sunna. Il dit, Hafidhahullah, et seul le premier acte sera accepté par Allah, car celui qui l'a accompli a réuni entre eux les deux conditions de l'acceptation des œuvres, la sincérité et le suivi du messager alayhi salatu wassalam. Face à Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نفعل ونذر وأسأله سبحانه وتعالى أن يرفع الأمة محمد صلى الله عليه وسلم هذا الوباء وأسأله سبحانه وتعالى أن ييسر خروج إخواننا المحصورين في بلدان في بلدان الكفر أن يردهم إلى أهلهم سالمين غانمين وأن يثبت إخواننا وأخواتنا المهاجرين والمهاجرات في بلاد المسلمين على هجرتهم ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمور المسلمين لما يحب ويرضى وأن يرزقهم بطانة صالحة تعينهم على إقامة الدين سألوه سبحانه وتعالى أن يشافي مرضى المسلمين ويعافي مبتلى المسلمين وأن يرد إليه ضال المسلمين ردا جميلا سألوه سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عتقائه في هذا الشهر المبارك وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا